Ils restèrent silencieux. La silhouette du saint géant, se découpant devant le ciel qui rougissait, lui donnait une allure plus fantastique encore. Bergton rompit le silence le premier.
« Saint-Sulpice, le cardinal de bonne chose, au centre du triangle parfait lupinien. Beaucoup y verraient plus qu'une coïncidence. »
Soudain, Paloma explosa.
« Et si c'était aussi pour faire diversion? Pour détourner l'attention? Un leurre encore? Maurice Leblanc connaissait cette statue, bien entendu ?»«
Bien entendu. Il a parcouru toute la Normandie en vélo. Il a même plusieurs fois fait à bicyclette le trajet Étretat-Paris. Il faut lire sa nouvelle. Voici des ailes. »«
D'accord, d'accord, » coupa Paloma. « Tout ceci, la statue et surtout bonne chose, me semble un peu trop évident. Comme une jolie fausse piste sur laquelle on a foncé sans réfléchir. »
Elle sortit sa carte routière et la posa irrévérencieusement sur la stèle de la statue. Elle jubila.
« Je pense qu'on s'est un peu emballé, professeur. Si on regarde très précisément l'intersection des trois bisectrices, le centre n'est pas ici. Il est plus près d'Héricourt-en-Caux. »
Bergton sembla rassuré.
« Que ferais-je sans vous, douce colombe ?»
Ils reprirent leur vélo et descendirent jusqu'à Héricourt-en-Caux.
On passe devant les sources de la Durdent, commenta Paloma. Ce petit fleuve qui traverse tout le Caux pour se jeter dans la Manche à Velette-sur-Mer. Vous savez tout ceci aussi bien que moi, professeur. Vous avez lu mon mémoire sur les sources et fontaines.
N'hésitez pas à me donner des précisions, confia le professeur. Je l'ai lu rapidement.
Quoi ?
Hurla Paloma. Elle freina brusquement, le vélo pila.
Je plaisante, bafouilla le professeur, obligé lui aussi de s'arrêter.
J'espère. Alors, quelle est la source d'Héricourt-en-Caux ?
La Durdent, bien entendu, risqua Bergton.
Raté ! Ça, alors, vous n'avez pas lu mon mémoire ?
Mais si, mais on ne peut pas tout retenir.
Ça, alors, quel mufle vous faites ! Je croyais que vous reteniez par cœur tout ce que vous lisiez. Ah oui, j'oubliais. Tout ce que vous lisez, du moins si c'est un bon texte.
J'ai eu plus d'une vingtaine de mémoires à lire en juin, plaida Bergton, sans parler des thèses.
J'ai passé 10 mois jour et nuit sur ce mémoire.
Mais vous avez eu une note excellente, maximale, et je vous assure que je l'ai lu.
Bon, n'en dites pas plus, vous vous enfoncez.
Longeant la Durdent, ils arrivèrent au village. Héricourt-en-Caux était un magnifique petit bourg cauchois, dont les moulins égayaient la vive rivière, dominée par une très imposante église aux allures de cathédrale miniature, avec ses multiples clochetons et ses transepts spectaculaires. Au fil de la rivière, les maisons à colombages rivalisaient de charme avec celles en grès, briques et silex.
« On continue !»
cria Paloma énergique.
« Tout droit !»
Bergton ne discuta pas. 300 mètres après la sortie du village, Paloma freina à nouveau brusquement.
« Voici mon hypothèse !»
déclara-t-elle fièrement. Elle désigna sur le bas-côté de la route, au pied du coteau, une source assez mal entretenue. On y descendait par un petit escalier jusqu'à une cuve de béton.
La fontaine Saint-Mélon. Page 52 à 57 dans mon mémoire. Saint-Mélon est enterré ici. C'est le premier évêque de Rouen, celui qui érigea la première cathédrale de Rouen. Il évangélisa le Caux. Il fit jaillir cette source miraculeuse. On vint ici en pèlerinage pendant des siècles. On plongeait les enfants dans l'eau glacée pour les guérir.
Bergton la regarda incrédule.
Mais quel est le rapport avec Lupin ?
Je n'en sais rien. Pas moins que Saint-Sulpice, en tout cas. Et je voulais vous montrer que moi aussi, je sais des choses.
Bergton haussa les épaules et remonta sur son vélo, faisant demi-tour pour retourner vers Héricourt-en-Caux. De dos, il lança d'une voix glacée.
« Hors sujet, mademoiselle !»
Paloma, énervée, fatiguée, sentit que ses nerfs allaient lâcher et qu'elle allait s'effondrer en larmes. Bergton enfonça le clou.
« Moi, je sais, vous vous déduisez !»
Sitôt arrivé dans Héricourt-en-Caux, Bergton gara son vélo. Il observa quelques instants le village désert, puis il entra dans le premier bar qu'il trouva. Paloma le suivit sans un mot. Les regards de la dizaine d'habitués se tournèrent vers elle. Elle perçut immédiatement une sorte de gêne. Elle se souvint alors qu'il était plus de 9 heures du soir dans une bourgade peu touristique et qu'elle se promenait avec un short miniature et un lycra moulant sur la poitrine. Personne ne la siffla, mais les regards demeurèrent appuyés. Paloma évita soigneusement de les croiser, mais sentit, au-delà du trouble physique qu'elle créait, une forme d'hostilité, une inexplicable hostilité. Bergton et son pantalon déchiré passa inaperçu. Ils commandèrent des cafés et Bergton, sans la moindre gêne, entama la conversation avec les hommes au comptoir.
« Je recherche quelque chose d'insolite dans le coin. Tout ce qui vous passe par la tête, n'importe quoi. »
Les clients, surpris mais impressionnés, ne posèrent pas de questions. Ils citèrent bien entendu le château de Boscolles, la statue de Saint-Sulpice, la source de Saint-Mélon, la tombe de Saint-Mélon, la chapelle Saint-Riquier et son calvaire de grès, les moulins. Bergton et Paloma enregistraient les informations, mais aucune ne faisait tilt. Les clients du bar semblaient à court d'idées. Certains sortirent. Bergton hésita à payer une tournée générale pour stimuler les intellects. Finalement, il se résigna à sortir. Il avait fait quelques pas vers la porte lorsqu'une voix au fond du bar lança
« Un colombier, ça vous semble insolite ?»«
Non, »
répondit spontanément Bergton. Il ouvrit la porte du bar pour sortir.
« Qu'est-ce qu'il a d'insolite, ce colombier ?»
demanda Paloma avant de sortir elle aussi, par acquis de conscience.
« Il a 12 côtés. Il paraît que c'est le seul comme ça de toute la Normandie. »
Paloma se mordit la lèvre. Bergton laissa la porte ouverte et cria presque
« Et il se situe où, ce colombier ?»« Oh, pas loin. Vous remontez la côte vers le Petit Vauville. En haut de la côte, vous suivez à droite le panneau « Route des Colombiers ». 1 kilomètre plus loin, vous pouvez pas le rater. »
Bergton remercia à la cantonade et Paloma, en guise de récompense pour les clients, afficha son plus beau sourire et sortit en ondulant lascivement son corps. Sur le trottoir, Bergton prit Paloma par les épaules.
Jamais plus je ne parlerai des cauchois qui fréquentent les bars comme Leblanc le fait dans l'Aiguille Creuse. Ces maquignons normands, rouges et lourds, qui font les foires de la région le fouet à la main et une longue blouse sur le dos. Un colombier dodécagonal. Vous vous rendez compte ?
Instinctivement, Paloma toucha du bout de ses doigts le dodécaèdre de cristal qui pendait à son cou.
12, continua Bergton. Le nombre clé au centre du triangle. Un colombier cauchois qui se réfère au dodécaèdre. C'est invraisemblable. Pour sûr, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Ça peut pas être une coïncidence.
Il croisa le regard pétillant de Paloma. Tous les deux se tournèrent pour reprendre leur vélo. Ils s'arrêtèrent stupéfaits. Les roues avant des 2 vélos étaient entièrement dégonflées. Bergton s'agenouilla.
« Crevé !» cria-t-il. « Tous les deux, un coup de couteau sans aucun doute !»«
Un client qui est sorti du bar, pourquoi ? Une vengeance ? Pourquoi ? C'est stupide !»
À ce moment, Bergton avisa un morceau de papier glissé entre son câble de frein et son guidon. Il l'ouvrit et déchiffra « Abandonnez vos recherches, immédiatement, ou je trouverai un usage moins amical pour mon couteau. » Roberto Martinez, La Folie. Bergton passa le morceau de papier à Paloma.
« C'est une menace plus réelle que je ne croyais, » fit Bergton. « Ce n'est plus seulement une menace virtuelle. Sérieusement, vous voulez tout arrêter, Paloma ?»
Elle resta quelques instants silencieuse. Le calme village lui sembla plus encore hostile. Ils étaient ici indésirables. Elle le sentait. Quelle menace se dissimulait derrière ces portes, ces fenêtres ? Elle entendit, presque lointaine, la voix douce du professeur.
« Paloma, vous voulez tout abandonner ?»
Elle répondit sans réfléchir.
« Tout abandonner, jamais, si près du but !»
Elle jeta un nouveau regard circulaire à la rue déserte et continua.
« Ces 2 roues crevées, ce mot, c'est incompréhensible. Comment pouvait-il être dans ce bar avant nous ? Comment pouvait-il deviner ? C'est impossible. Ou alors il nous suivait. Mais comment pourrait-il nous suivre ? Bateau, cheval, avion, vélo, il est rigoureusement impossible de nous suivre. C'est incompréhensible, invraisemblable. Et en prime, nous voilà à pied.
Pas tout à fait, fit Bacton.
Comment cela? Vous savez réparer deux roues crevées avec juste vos 10 doigts?
Paloma semblait à bout de nerfs.
Non,
expliqua le professeur.
Mais avec les 2 roues arrière de nos vélos qui sont intactes, on peut en faire un entier.
Bien raisonné.
Elle sentit qu'elle avait besoin de se calmer.
Je vais reprendre un café, sinon je vais pas tenir. Je suis à l'intérieur. Vous m'appelez quand vous avez fini ?
Visiblement satisfaite de sa petite et mesquine vengeance, elle rentra dans le bar. Bacton jura et se mit au travail. 5 minutes plus tard, il était parvenu à remplacer une des roues avant crevée par la roue arrière intacte de l'autre vélo. Il entra dans le bar rechercher Paloma. Une cour de prétendants se tenait autour d'elle, la bière à la main. Paloma sourit en observant le pantalon noirci de cambouis de Bacton.
Ils sortirent, et Bacton pensa qu'il révisait immédiatement sa position sur les maquignons cauchois rouges et lourds. Galant malgré tout, il proposa à Paloma
« Vous montez sur le porte-bagages ? Je n'ai sans doute pas les jarrets d'un Maurice Leblanc, mais je vous suppose légère comme une plume. »
Paloma gloussa. Elle était réconciliée. Bacton regarda le ciel. Il s'était encore obscurci, et un vent tourbillonnant commençait à se lever.
Ça va tourner à l'orage.
Comme tous les soirs cette semaine.
La côte de Vauville se présentait comme une pente assez raide, avec un dénivelé d'une 50aine de mètres. Paloma eut pitié de Bacton, et ils finirent à pied les derniers mètres de la montée. Au sommet, effectivement, un panneau « Route des Colombiers » indiquait la direction à droite. D'ailleurs, le nom de la route, rue du Colombier, ne laissait aucun doute. Paloma remonta sur le porte-bagages et lança amicalement avec un accent espagnol forcé
« Oh, is, mon Indurain !»
Dans la nuit qui commençait à tomber, ils écarquillaient les yeux pour ne pas rater le fameux colombier. 1 kilomètre plus loin, au milieu de la cour de ferme, au pied d'une mare, ils le virent. Immédiatement, tous les deux sûrs, sans même se parler, que le centre exact du triangle parfait de Lupin était ici. Aucun doute. Le colombier aux 12 côtés, planté dans un banal décor, régnait comme un chef-d'œuvre incongru. Un joyau déposé ici par hasard, un trésor perdu, un arbre millénaire au cœur d'une forêt banale. Ils restèrent à admirer le superbe colombier. Toit de chaume, alternance recherchée de briques et de silex, élégante sculpture ouvragée en voûte, et surtout, 12 côtés.
12 côtés, fit Bacton. Le dodécaèdre.
Ça ne peut pas être une coïncidence, coupa Paloma en riant.
Ils entrèrent dans la cour de ferme et firent le tour du colombier. Ils ne remarquèrent strictement rien de particulier. Ils retournèrent sur la route, un peu déçus.
Que fait-on maintenant ?
Demanda Bacton.
On cherche une idée. Profitons des dernières minutes de jour, avant l'orage.
Elle étala sur le bord de la route la carte de la Seine-Maritime. Tous les deux s'agenouillèrent devant les lignes qui formaient le triangle équilatéral, les 3 bisectrices et leurs prolongements. 1 ou 2 gouttes tombèrent sur la carte.
« Il faut se dépêcher, » dit Paloma. « Nous connaissons le triangle et avons repéré le dodécaèdre au centre. Vite, une idée !»«
Et les points entourés qui ne sont sur aucune ligne ?»«
C'est vrai, il y en a encore beaucoup. »
Quelques autres gouttes tombèrent sur la carte.
« Et Tancarville ?» demanda Bacton. « Tancarville n'est sur aucune ligne. »«
Comme encore un certain nombre d'autres lieux que j'ai entourés aujourd'hui. Les lieux rouennais, par exemple. De toutes les façons, tant que l'on n'aura pas trouvé à quoi sert le centre géographique, on n'aura pas avancé. On ne pourra pas faire le lien avec le cryptogramme de l'aiguille ni les 12 châteaux. »
Bacton regarda sa montre. « 22h10. »
« On ne va tout de même pas rester bloqué ici, » grogna le professeur. « Pas au cœur même du triangle, ce serait trop stupide. »
Paloma, elle, regardait le ciel avec inquiétude.
« Il nous faut partir, professeur, nous abriter. On reviendra après l'orage. Que diriez-vous de reprendre le vélo et de dévaler la côte jusqu'au café du village ?»
Roland Bacton sembla se résigner.
Vous avez raison. Acceptons notre ignorance, fuyons. Dévalons la côte sur notre bicyclette, comme le disait Julien Gracq.
Paloma commença à replier la carte tout en soupirant. Elle avait froid, elle était fatiguée. Elle n'avait aucune envie de relever cette allusion savante à Julien Gracq qu'elle ne comprenait pas. Roland Bergton ne remarqua pas son indifférence. Il continua.
Vous savez, Julien Gracq était un fervent admirateur de Maurice Leblanc, comme beaucoup d'écrivains célèbres d'ailleurs. Mais Julien Gracq était vraiment le plus fidèle.
Paloma haussa les épaules et le coupa vivement.
« Excusez-moi, professeur, mais c'est vous qui maintenant êtes hors sujet. Aidez-moi plutôt à plier bagages. »
Bergton soupira à son tour.
« Vous avez raison, belle et raisonnable Paloma. Reprenons notre monture et dévalons. »
Il ne put cependant s'empêcher de déclamer.
« Quand je visite le pays d'Arsène Lupin ou sur les routes, le frénétique Isidore Beautrelet, dévalant sur sa bicyclette, tourne autour de l'aiguille creuse comme la flèche de la boussole autour du pôle. »
Paloma s'arrêta brusquement, la carte à la main. L'étudiante regarda Bergton avec des yeux démesurés. Le professeur la trouva soudain extrêmement belle.
« Professeur, qu'est-ce que vous venez de dire ?»«
Rien, » répondit Bergton un peu surpris. « Simplement quelques mots célèbres de Julien Gracq en hommage au pays de Lupin. »
« Nom de Dieu ! Julien Gracq savait donc. Il avait donc deviné. La flèche de la boussole autour du pôle, c'était tellement simple, tellement évident. »
Roland Bergton resta sans voix. Il ne comprenait rien. Paloma continua.
« Avez-vous dans votre trousse une punaise et un crayon à papier ?»
Avant qu'il ait eu le temps de répondre, elle fouillait dans le sac du professeur et trouvait ce qu'elle cherchait. Elle fit au passage une bise sur la joue du professeur.
« Vous êtes un génie, Roland. Pensez à citer Julien Gracq en un pareil moment. Il n'y a que vous. »
Bergton prit une posture amusée et laissa faire Paloma. Elle souleva la carte et passa la punaise dessous. Elle transperça la carte avec la punaise exactement au centre du triangle, à l'intersection des trois bisectrices, 1 kilomètre à l'est d'Héricourt-en-Caux. L'endroit exact où il se trouvait.
La pointe de la punaise est censée représenter le colombier ?
Demanda Bergton intrigué. Paloma ne répondit pas. Elle appuya fortement le crayon à papier sur la punaise. Elle vérifia. Le crayon punaisé pouvait ainsi parfaitement pivoter sur la carte. Les gouttes s'intensifièrent. Une pluie chaude. Paloma ne sembla pas la remarquer.
L'aiguille, professeur, la fameuse aiguille. Et si l'aiguille, ce n'était pas seulement celle d'Étretat ? Et si l'aiguille d'Étretat n'était qu'un leurre, toujours un leurre ? Et si l'autre sens, le sens codé, c'était simplement, banalement, l'aiguille d'un cadran, d'une montre, d'une boussole ? C'était si évident. Une aiguille. Quelle est la fonction d'une aiguille ? Bien entendu, montrer la direction. La direction du temps, la pendule. La direction des lieux, la boussole. Le temps et l'espace, une nouvelle fois réunis, comme à Jumièges. Réunis, bien entendu, par l'aiguille. C'était si évident, l'aiguille qui montre la direction. Comment tout le monde a-t-il pu se faire avoir avec un leurre aussi énorme que l'aiguille d'Étretat ?